tu gondes dans les grands chemins. Moi tu gondes dans les grands chemins. Moi tu gondes dans les grands chemins. Et je vois Jean.
Premier extrait de son album Gumbo, c'était Dans les grands chemins, Zachary Richard.
Alors, je poursuis la lecture de la chronique de Mylène Moisan à propos de l'histoire d'Andréane Leblanc, ambulancière, qui est intervenue sur les lieux de la tuerie de la Grande Mosquée le soir du 29 janvier. Alors, son frère, donc Vincent, est tombé par hasard sur une émission d'entrée principale. Un pompier parlait des risques de son métier sur la santé mentale, le syndrome du choc post-traumatique. Il a reconnu sa sœur. J'écoutais ça et je me disais, c'est tellement la même chose, ça décrivait si bien. Mais ça n'arrangeait rien. Dans la nuit du 7 au 8 décembre, Andréane a été arrêtée par les policiers et envoyée de force en psychiatrie. Elle a eu un P38, une ordonnance de la cour pour l'obliger à y rester 48 heures. Elle s'est sentie humiliée. Elle voulait juste qu'on la laisse tranquille. Ils ont dû lui faire accepter d'être là. Et ils ont réussi. Elle est restée là 8 jours sur une base volontaire. Pour la première fois, elle acceptait de mettre un genou par terre. L'année 2018 commençait bien et elle était venue s'installer chez sa mère. Elle était très calme, elle ne consommait plus, elle avait tout arrêté. Mais il y avait quelque chose de brisé chez elle. Je devais faire le deuil de ma sœur d'avant. Elle était fragilisée. Le vent semblait vouloir enfin tourner. Elle avait recommencé à s'entraîner, elle s'était trouvé un travail, elle était appréciée. Il y avait une petite lueur d'espoir. Elle se disait même qu'elle pourrait retourner comme ambulancière l'été. Elle ne verra pas l'été. Le 12 mars, elle a reçu 2 lettres dans le courrier des mauvaises nouvelles qui la replongeaient dans l'enfer qu'elle avait traversé. Lucie avait l'espoir qu'elle refasse sa vie petit à petit, mais ça a ravivé sa peine, sa détresse. Elle est partie le lendemain, on ne l'a plus revue. Andréane a été retrouvée sans vie le 15 mars dans son uniforme. Elle a laissé 5 lettres pour ses proches, sans vraiment expliquer pourquoi elle a fait ça, ce qui l'a conduit dans une telle détresse. Dans l'une d'elles, elle écrit « Au moins, j'ai sauvé des vies ». Elle avait 31 ans. Lucie ne peut s'empêcher de penser que l'aide est venue trop peu trop tard, de se demander si l'histoire aurait été différente si sa fille avait assisté au premier désamorçage le soir du 29 janvier. Elle ne sait pas s'il y a un autre événement qui aurait pu faire basculer sa fille. Il faudrait qu'il y ait une plus grande sensibilisation auprès des ambulanciers sur l'aide qui est disponible pour eux, et aussi pour qu'ils acceptent cette aide. Il y a une prise de conscience. Les paramédics sont avant tout des êtres humains. Il y a un message clair quand elle a mis son uniforme. Elle revendiquait beaucoup ça, sauver des vies, et là, c'était sauver ses collègues. André Tremblay-Roy n'est pas prêt d'oublier cette intervention d'il y a environ un mois. Un appel en pleine nuit. Il est basé à Pointe-à-la-Croix, en Gaspésie. C'est la nuit, il est autour de 2 heures du matin. Je dois intuber un homme, mais il n'y a pas de lumière dans le logement. C'est le policier à côté qui m'éclaire avec sa lampe de poche. Il y a une femme qui crie et un enfant d'environ 2 ans qui est là. Il ne comprend pas ce qui se passe. On est loin d'une salle d'urgence. André est ambulancier depuis 10 ans. Il a tout vu. Ça fait partie de notre métier de voir des bouts de chair, des bouts d'os. On le sait quand on choisit de faire ce travail-là, mais ce n'est quand même pas normal pour un humain d'être exposé à ça. À toutes les images, ça reste, c'est sûr. Il y a les flashbacks qu'il doit apprendre à gérer. Aussi cet appel qui est entré quand il soupait avec sa femme et sa fille, priorité 3, sur la rue de la mer. L'adresse de mes beaux-parents. André a aussi travaillé à Québec. Il sait de quel bois un ambulancier doit se chauffer. On ne peut pas mettre toute la responsabilité sur la charge de travail, mais c'est un travail pernicieux. Comme moi aussi, je suis de garde 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Je peux être appelé n'importe quand. Quand on s'est parlé, il venait de travailler tellement d'heures de suite que la CSST avait imposé quelques heures de repos. C'est certain qu'il y a plein d'éléments qui nous troublent, certaines images, la misère humaine. C'est différent pour chacun. Et si jamais on sent qu'on a besoin d'aide, ce n'est pas évident. On est connu aux urgences et on se demande ce qu'ils vont dire de nous. On se dit on est fait fort. On est au-dessus de tout ça. Pas toujours. Il a connu Andréane Leblanc avant qu'elle ne parte travailler pour Québec. Elle était très déterminée. Un peu idéaliste. Elle voulait que des choses soient améliorées, qu'on soit mieux formé pour certaines interventions. Elle avait d'ailleurs suivi des formations de plus pour repartir un cœur en arrêt, par exemple. Elle adorait son métier. Elle ne donnait pas sa place et elle trouvait que Pointe-à-la-Croix, ça ne bougeait pas assez. Il y a eu quelques échanges avec elle après la tuerie de la mosquée. Je lui ai envoyé quelques textos les mois après et quand je voulais entrer en contact, je la sentais plus fermée. J'écrivais « Comment ça va ?» Elle répondait juste « Ça va, correct. » J'ai senti qu'elle ne voulait pas en parler. Il a appris sa mort sur Facebook. Vice-président de la Fraternité des travailleurs et travailleuses du Pré-Hospitalier du Québec, André veut sonner l'alarme. On investit beaucoup d'efforts pour faire attention aux musculo-squelettiques, mais il faut aussi s'occuper de la boîte à fusibles. Il faut absolument briser les préjugés. Plus on consulte tôt, plus le taux de succès est bon, plus la guérison est possible, moins il y a de conséquences et de séquelles. Alors je reprends la phrase. Plus on consulte tôt, plus le taux de succès est bon, plus la guérison est possible, moins il y a de conséquences et de séquelles. Depuis environ 4 ans, André remarque une augmentation de la détresse chez les ambulanciers. Ils sont 1 000 000 au Québec. La Commission des lésions professionnelles ne reconnaît pas le post-traumatique par accumulation. Il serait peut-être temps qu'il y ait des études sur l'impact de ça. Le métier a changé à vitesse grand V. Dans les années 80, c'était 20 $ par appel. Il ne faisait pas tout ce qu'on fait. André n'est pas le seul à s'inquiéter de la santé mentale des ambulanciers. Le constat revient dans l'actualité depuis quelques années, montrant entre autres du doigt une charge de travail plus grande, des horaires de travail exigeants, avec de l'adrénaline en quantité. Il y a environ un mois, André a lancé l'idée d'établir un système de sentinelles chez les ambulanciers, de partager, faute de pouvoir uniformiser les protocoles de prévention des problèmes de santé mentale. Il faut prendre les devants. Il faut diriger les personnes vers les ressources, au moins les en informer. Il faut débarrer des portes qui ne sont pas facilement ouvertes, par orgueil, par fierté peut-être, les lumières jaunes. Ce soir-là, le 29 janvier 2017, des appels entrent au 911 entre un peu 20 heures, un peu avant 20 heures. Les ambulanciers reçoivent un code 27, plusieurs blessés par balle. Un homme armé a fait irruption à la Grande Mosquée de Québec. Les ambulances sont dirigées vers les lieux du crime, toutes sirènes hurlantes. Chaque seconde peut faire une différence entre la vie et la mort. Quand elles arrivent, il y a au moins 5 personnes qui doivent être transportées d'urgence à l'hôpital. C'est l'horreur, en direct. Directeur adjoint aux opérations des ambulanciers de Québec à la CTAQ, Martin Berube, explique que des mesures ont été mises en place pour faire ventiler ceux qui étaient sur les lieux. L'équipe de direction est entrée pendant la soirée pour faire un premier désamorçage pour permettre aux ambulanciers de ventiler. Ils ont raconté ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vu, comment ils ont réagi. Ça nous a permis de cibler des gens qui auraient besoin du plus d'attention dans les prochains jours. Il y a eu un autre désamorçage 2 ou 3 jours plus tard. Tout le monde était invité, presque tout le monde est venu. Il y avait des psychologues. Tous les signaux d'alarme ont été relatés aux paramédics et aux confrères pour qu'ils soient plus attentifs, pour qu'ils fassent au besoin une délation positive aux supérieurs. Chaque signal d'alarme est une lumière jaune. On observe qu'ils sont plus nerveux. On observe s'ils sont plus nerveux, plus stressés, plus irritables. On peut voir aussi une perte de poids, une plus grande fatigue, de l'insomnie, moins d'entrain. On peut remarquer que la personne participe moins aux activités sociales. On offre un suivi à ceux qui pourraient en avoir besoin. Ils sont pris en charge s'ils le souhaitent. D'où l'importance d'être conscient de leurs problèmes, de l'accepter. À l'heure actuelle, chaque entreprise de transport ambulancier au Québec, qu'elle soit privée ou coopérative, est responsable du soutien psychologique offert à ses employés. Une 60aine d'entreprises, une 60aine de protocoles à géométrie variable selon les ressources. Le temps est peut-être venu de s'assurer d'un minimum. Est-ce qu'il faut un protocole national? Ça pourrait être une solution. Mais il faut aussi comprendre que c'est une responsabilisation des communautés. Ce qui pourrait être intéressant, ce serait une mise en commun des idées, de ce qui se fait ailleurs. L'objectif, c'est que personne ne passe entre les mailles du filet. Veux, veux pas, les suicides, ça conscientise. Ça te dit que ça peut arriver à n'importe qui. Je pense que toute la question des préjugés, ça a beaucoup changé. Les ressources sont là. L'accueil est là. Ceux qui le font disent « j'aurais dû faire ça avant. J'aurais donc dû. » Ceux qui en sortent grandis. Ceux qui pensent régler ça par eux-mêmes, ce n'est pas la chose à faire. Et même les super-héros ont parfois besoin de reprendre leur souffle. Il faut faire tomber le mythe de l'orgueil, de l'uniforme. L'uniforme ne protège pas de tout. En dessous, c'est un humain. Alors c'était la chronique de Mylène Moisan intitulée « Au moins, j'aurai sauvé des vies ». Et comme le temps file, on va faire une espèce de mixte entre la chronique culturelle et sujet libre. Alors allons-y en chanson, Jean-Sébastien, puis on vous retrouve tout de suite après.
Après des milles sous la pluie, et après des jours sous la nuit, avant de ne plus voir le nord. Après autant d'aujourd'hui, et après tant de nuages gris, et avant que mon temps ne prenne le bord. Je prends l'ascenseur qui va plus près du soleil, près de la chaleur aussi. Plus rien n'est pareil depuis que je vois ma vie. Avant d'enfin voir les éclaircies. Après les chaos dissonants, après les cachots étouffants, avant que l'espoir ne m'oublie. Je prends l'ascenseur qui va plus près du soleil, près de la chaleur aussi. Plus rien n'est pareil depuis que je vois ma vie. Rien n'est pareil. Sous la pluie, après des jours sous la nuit, avant de ne plus voir le nord, après autant d'aujourd'hui.
La formation 7 jours en mai et la pièce Vue d'ici.
Devoir patrimoine, la maison natale de Jacques Ferron en vente. C'est un article de Jean-François Nadeau. Quelle belle maison! Maison natale donc de l'illustre famille Ferron est en vente à Louisville. Peintre, romancier, dramaturge, figure de proue de la culture québécoise, Jacques, Marcel et Madeleine y ont grandi dans l'entre-deux-guerres. Réal Maurice Beauregard et sa compagne l'avaient racheté en 1980 pour en faire un gîte touristique. Près de 40 ans plus tard, les propriétaires ont décidé de céder la maison pour partir s'installer à Montréal. Le prix de vente de cette vaste et imposante demeure, gorgée d'histoire, a été fixé à 384 000 par un courtier immobilier. Située à Louisville, à un jet de pierre de la rivière du Loup, à tout juste quelques kilomètres de Trois-Rivières, cette vaste maison bourgeoise de 7 chambres, rehaussée de lambris, date de l'ère victorienne. Construite en 1898 dans le style composite néo-Queen Anne, elle est d'abord édifiée pour le compte du docteur Louis-Léandre Hamelin, futur maire du lieu, notabilité locale. La demeure est rachetée en 1919 par Joseph-Alphonse Ferron, notaire, bientôt père d'un clan dont l'immense influence sur la vie culturelle du Québec demeure à ce jour considérable. Après ses études à l'Université Laval de Montréal, le notaire s'est installé dans cette localité du comté de Masquinongée pour établir ses affaires. En 1920, il épouse Adrienne Caron. De leur union va naître en 1921, dans cette maison même, un premier fils, Jacques. Avant même son décès prématuré en 1985, il est déjà considéré comme un des très grands écrivains de son pays. Auteur de La Mélanchier, Du ciel de Québec, d'un nombre impressionnant de lettres aux journaux, et d'une immense correspondance en voie d'être entièrement publiée, Jacques Ferron charpente une bonne partie de son œuvre sur la base de ses souvenirs de Louisville. Son amour pour la nature, sa passion de nommer les choses et d'apprécier la vie des gens humbles dans toute la complexité de leurs histoires, Jacques Ferron va les affiner dans ce territoire de son enfance, ce dont il ne se cachera jamais. Il connaît le moindre méandre de la rivière du Loup qu'il va parcourir en canot. Il regarde les vaches d'un cultivateur voisin, fasciné à l'idée qu'on puisse savoir le nom de chacune. Il observe tout de la vie du comté de Masquinongée, non pas dans un repli régionaliste, mais dans une ouverture du particulier vers l'universel. Jusque dans ses ultimes projets d'écriture, Jacques Ferron reviendra à ses souvenirs de Louisville. Ainsi, lorsqu'il entreprend de considérer le traitement de la phonie dans un livre qui lui donne beaucoup de mal, il en appelle à cette capitale de sa conscience, appuyée sur une riche culture littéraire. Il dit « À Louisville, on parlait des échappés de Beauport. » On disait aussi qu'il est bon pour Mastaille, pour Saint-Michel-Archange, nommé d'après Pie IX, cardinal de Mastaille ou Mastaille, M-A-S-T-A-I, tréma. Mastaille était un lieu d'internement de grand prestige, pas comme le Bedlam des formations phonétiques de Bethléem de Shakespeare. En entrevue, Jacques Ferron a expliqué plus d'une fois ce que son œuvre doit à l'imprégnation de ce pays des commencements. Il l'a fait parfois avec les mots rugueux du temps, toujours sensible au sort des petits et des sans-grades d'où ils viennent. À Louisville, il y avait une structure manichéenne, une structure d'ensemble, le bas et le haut. Le bien et le mal, le grand village des notables et puis surtout le petit village des prolétaires. N'oubliez pas que la Chine a été le petit village de Montréal. Le petit village, sans doute d'origine indienne, n'avait comme rue que des sentiers. J'ai vu la même chose en 1946 au village Micmac du Nouveau-Brunswick, réserve indienne où travaillaient des Chinois et des Négresses. Micmac et Fredericton, petit village et grand village, Sydney et Montréal, petit village et grand village. Négresse de Sydney et Canadien français, deux petits villages. Ce sont les écrits de Jacques Ferron. Son père, le notaire Ferron, aura son bureau dans la demeure familiale jusqu'à sa mort. Il se suicidera en 1947. Dans Le Devoir, dans un courrier des lecteurs, Jacques soutiendra qu'un notable comme son père fait figure d'un misérable qui est toujours contre les siens. La maison d'une mère, toute de briques, coiffée d'un imposant lanternon vert, l'ancienne maison des Ferrons en vente depuis quelques semaines, est classée pour sa valeur patrimoniale depuis 2012 seulement. Cette vaste maison d'inspiration victorienne est flanquée d'anciennes écuries aux portes imposantes, un univers de chevaux qui rejaillit dans l'œuvre de l'écrivain qui s'est enlevé la vie en 1985. Le notaire était passionné par ces bêtes. Son fils le sera aussi. « Nous avons rénové les écuries en arrivant », explique M. Beauregard au Devoir. « Les grandes portes ont été refaites selon le modèle de l'époque. Toute la maison a été patiemment rénovée. Nous avons fermé le gîte le 31 décembre 2017, en même temps que la presse cessait de publier. Pour nous, c'est la fin d'une époque. C'est malheureux, mais il faut parfois changer. On s'est abonné au Devoir et on déménage à Montréal. » Dans son œuvre, Jacques Ferrons parlera beaucoup de ces lieux de son enfance, explique Marcel Holscan, son biographe. Il fut très marqué par la mort prématurée de sa mère survenue dans cette maison le 5 mars 1931, après un séjour au sanatorium. Joint par le Devoir à l'Université d'Ottawa, le professeur Holscan explique que l'image du corps de la jeune mère descendue par le grand escalier de la maison fit une très forte impression sur les enfants Ferrons, en particulier sur Jacques. Dans leur correspondance, les Ferrons parlent souvent du 5 mars comme d'une journée maudite où il vaut mieux ne rien faire, ne pas bouger, rester chez soi, par crainte que le pire ne survienne de nouveau. Après la mort de sa femme, le notaire Ferron va se remarier avec Ida Caron. Lorsque le notaire meurt en 1947, Jacques et Madeleine sont les deux seuls des cinq enfants à être encore à la maison. C'est la succession qui va s'occuper de vendre la maison. « Tout cela n'est pas très clair », explique Marcel Holscan. La maison a par la suite appartenu à un médecin et organisateur libéral, Avelin Dalcourt, qui accueillera chez lui plusieurs personnalités politiques importantes, dont René Lévesque, Jean Lesage et le gouverneur général Georges Vanier. Cette maison comprend 7 chambres et de vastes espaces qui, cependant, ne correspondent pas, au chapitre de la décoration du moins, à l'intérieur feutré qu'ont connu les Ferrons. Ce décor plus ostentatoire qu'il a créé depuis qu'il a pris possession des lieux, Réal Maurice Beauregard s'inquiète un peu de le voir désormais disparaître. Musique critique, Ray LaMontagne, Part of the Light. C'est Émilie Côté dans la presse qui critique ce disque. Elle lui accorde 4 étoiles sur 5. L'éminence folk Ray LaMontagne, qui connaît un grand succès au Québec depuis un spectacle au Festival de jazz en 2005, a sorti son 7e album, Part of the Light. Une fois de plus, impossible de ne pas être remué à l'écoute de la voix inspirée et des poignantes mélodies du musicien né dans le New Hampshire et qui a des racines maternelles canadiennes-françaises. Part of the Light porte bien son nom. L'album regorge de moments lumineux, presque religieux. Après avoir travaillé avec Dan Auerbach des Black Keys et Jim James de My Morning Jacket, LaMontagne a écrit, enregistré et réalisé les chansons de Part of the Light seul dans son studio à la maison. Cette intimité s'entend. Il y a une douceur dans le son, mais aussi beaucoup d'espace et de respiration. C'est beau à pleurer sur les ballades It Always Been You et Goodbye Blue Sky. La montagne y va encore de ses subtiles touches floydesques ici et là. Alors, on parle ici de touches floydesques, vous avez compris qu'on parle de Pink Floyd. Plus rock, As Black As Blood Is Blue, marque la moitié de l'album. Such a Simple Thing, un bijou de pedal steel. Ray La Montagne ne se réinvente pas et reste dans sa zone de confort, mais les 10 chansons de Part of the Light frisent la perfection. Voilà, c'est tout pour le quotidien des quotidiens du 28 mai 2018. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Dans un petit moment, j'amorce l'animation de l'Hyperactualité. C'est la dernière semaine d'Hyperactualité pour cette saison. Alors, restez avec nous. Puis, merci beaucoup à Jean-Sébastien Laliberté, comme d'habitude, fidèle au poste, les lundis, mardis, mercredis, pour la mise en onde et les choix musicaux. Merci d'avoir été là et à très bientôt, dans quelques minutes, j'espère bien.